qu'il fasse beau, c'est Plumes et Pinceaux, l'émission de bande dessinée de Canal B, émission 470, mon bon Roger. C'est fou, hein, on accumule.
Eh, hey, on vieillit surtout, c'est surtout ça qui fait peur.
On peut voir ça comme ça, moi j'ai envie de dire on progresse,
ouais,
on continue d'avancer.
Vous êtes jeune, vous avez toutes vos dents.
Non.
Vous
êtes... Je suis désolé. Alors, mauvais exemple.
Bon, vous n'avez pas blanchi?
Si.
Bon.
Mais vous ne me regardez plus, en fait.
Vous n'avez pas pris trop de bides encore?
Si.
Bon,
depuis le COVID.
Peut-être que vous ne portez plus vos docs parce que vous avez peur de les juger. Peut-être, oui, qu'effectivement, nous avons vieilli. 470e, mon bon.
Tom Pousse Fugit, ou je ne sais plus comment on dit. En tout cas, le temps passe. 470e émission. Alors aujourd'hui, de la chronique et de la news et de la musique. Voilà, pour faire simple.
Voilà.
On y va, on commence avec le garage à tonton Roger.
Ouais.
The View. Non, je crois qu'on dit View, hein.
C'est
vraiment, il
vrai.
N'y a pas d'autre The.
Ah, c'est possible.
View, she's sweet.
C'est vous le spécialiste.
Ce morceau, vraiment toujours aussi efficace. C'est vous qui me l'avez fait découvrir.
Eh oui.
Bravo,
ah,
Roger, d'avoir
reçu. Vous moquez pour quand vous moquâtes, pas plus tard que la semaine dernière, de mon bon vieux rocab. Bon, bah, c'est pas grave.
Ah, vous avez de la mémoire quand même, hein.
Bah, j'ai de la mémoire et puis
de toute façon, je le vois. Vous devez bouffer du poisson en ce moment parce que vous, d'habitude, vous venez avec plein de papiers pour vos news et tout ça. Et maintenant, vous êtes de plus en plus light. Vous êtes téléphone et tout dans la tête.
Bah oui, oui.
Plus de grosses masses de papiers.
Mais j'ai remarqué ça dans le milieu où je travaille. Mes clients, ils ont presque plus de papiers. News, allez, on va commencer news. Par une nouvelle très très moyenne, surtout pour vous, ah. mon bon plume. Les ventes de BD seraient en baisse de 11%. Je crois que vous avez dû être au courant de ça.
Ouais, j'ai un peu suivi effectivement les actualités. Après deux années record, la BD, alors ça vend toujours bien. Hein, ça vend toujours bien.
Ouais, c'est des chiffres.
Moi, j'ai trouvé 75 millions de BD et de mangas neufs vendus cette année.
En France ?
En 23 en France.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est vraiment bien. Mais ça a baissé.
Ça a baissé. Alors, vous savez comment. Moi, j'ai piqué ça dans les Échos et encore pas en entier parce que comme je veux pas accepter les
cookies.
Aussi
sur un site économique.
Ouais, comme j'accepte pas les cookies chez ces cons-là, les Échos, c'est quand même un peu à droite de Dieu. Eh ben, t'auras pas l'article en entier. Ben, je vous emmerde. Je vous emmerde aussi parce que j'ai fouillé aussi ailleurs. Et parmi
j'ai trouvé des infos, ouais, moi.
Les secteurs qui marquent le pas, c'est le manga. Le manga marquerait le pas, vous avez dû trouver ça aussi.
Ouais, mais il reste quand même, enfin leader, hein, locomotive, un titre sur deux, je crois, est un manga.
Oh la vache.
Effectivement, un titre sur deux de BD neuve qui est vendu, c'est un manga. C'est le shonen qui marche le mieux, mais ça a marqué le pas, effectivement. Apparemment, des grosses séries un petit peu ont un peu moins produit ou rencontré leur public cette année. Donc, ça a un peu marqué le pas. Mais ça reste la locomotive, avec la BD jeunesse, en fait.
Et d'après toujours les Échos, s'il n'y avait pas eu la sortie du dernier Astérix et du Achille Talon dont vous parliez.
Du Gaston Lagaffe.
Du Gaston Lagaffe, pardon.
Non, je retire tout ce que j'ai dit sur votre mémoire.
mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'Achille Talon. Eh bien, le marché eût été encore moins florisseau. Peut-être que les prix ont augmenté de bandes dessinées.
On a de plus en plus de beaux livres aussi maintenant, quand même. Les prix ont augmenté, mais on a de plus en plus de beaux livres. Et le comics, c'est effectivement, lui, il est
assez
bas. C'est
là où je voulais en venir. Ouais. On parle de solde sur le collant de couleur en ce moment.
Oui.
Le collant ne fait plus rêver.
C'est vrai qu'il y a plein d'opérations de comics pas chers. Il y a beaucoup d'opérations. Il y en a une en ce moment là de DC d'ailleurs, je crois, où il y a effectivement des albums dans des formats un peu plus réduits, etc. Donc tu perds un peu de qualité d'image, mais tu peux te faire des intégrales pour pas cher.
Ça intéresse encore grand monde.
En fait, je crois que ça marche bien ces trucs de promotion, mais du coup, ils se bradent un petit peu. Autrement, s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas si ça marcherait. Alors, il y a des titres combien marché. Hein. A Nice House by the Lake, là, par exemple, que je vous avais chroniqué.
Oui.
Ça a très bien marché.
Il n'était pas vendu sous format comics.
Ah non, celui-là, il était vendu en format grand album, effectivement. Ouais. Enfin, taille franco-belge, quoi, la classique. Mais autrement, le collant marche moins bien. Mais
C'est ça que je voulais vous entendre dire. Parce que vous
savez bien que si vous suivez un peu l'émission, vous avez remarqué que je parle de plus en plus de mangas et de moins en moins de super-héros. Ça tourne un peu à vide dans les scénars chez Marvel. C'est toujours un peu les Avengers contre la énième invasion extraterrestre ou le énième voyage temporel. Enfin, le serpent se mord un peu la queue. Ils sont un peu essoufflés sur le plan scénaristique. C'est pas rigolo.
C'est un peu normal, vu le genre.
C'est des ressucés, si je puis me permettre, j'ai l'impression.
Puisqu'on parle de ressucés, parlons justement, et vous allez comprendre pourquoi je vous parlais d'Achille Talon tout à l'heure, parce qu'il a 60 ans. Et 60 ans, et il a fallu que je trouve ça dans Science et Avenir. Alors, comme
décidément.
J'aime mieux Science et Avenir que les Échos, là j'ai dit OK pour les cookies et j'ai eu l'article en entier. Alors on les remercie. Et ce qui est surtout intéressant, parce que c'est quand même Science et Avenir, alors il rappelle, attention, il rappelle quand même des choses. Monsieur Greg, l'auteur d'Achille Talon, en 63, ça ne nous rajeunit pas, est dû au talent de monsieur Michel Régnier, de son vrai nom, je l'ignorais moi. Michel Régnier, 1931-1999, qui fut extrêmement fécond. Il a fait dans le réalisme, la SF, la série humoristique. Il a travaillé avec Franquin. Il a scénarisé sans doute, d'après Science et Avenir, par les meilleurs albums de Spirou avec Z comme Zorgloub, L'ombre du Z. Et il rappelle surtout, que Talon, en plus d'être un bavard, c'était aussi quelqu'un qui adorait la science, en tout cas il en parlait. La problématique de l'écologie a été maintes fois rappelée. Et moi je suis un grand fan d'Achille Talon, en fait. Quand j'étais petit au collège notamment, je récupérais donc d'Achille Talon dans les bibliothèques municipales, je m'en achetais et j'ai toujours adoré ces... Enfin, moi je préférais ces recueils de BD en deux cases, vous savez. Dans les histoires longues, je le trouvais beaucoup moins drôle. Et par contre, c'est dans les histoires longues que, d'après Science et Avenir, on trouve des références à la science, comme en, notamment une histoire avec le bidouble, l'histoire du bidouble, où Achille Talon existe, raconte comment Greg raconte l'histoire de l'invention d'une machine qui permet aux objets et aux gens de se dédoubler. Mais Greg nous rappelle que les lois de la science étant indestructible. Et la science peut tout, certes, mais elle ne peut pas inventer de la matière si elle n'existe pas. Donc, si je vous dédouble, eh ben, on aura deux petites plumes.
Des mini-plumes.
Des mini-plumes, vous voyez. Et on peut après en avoir quatre, mais ils seront encore plus petits. Et c'est assez marrant de voir la façon dont Science et Avenir rend hommage à monsieur Greg, qui le mérite bien et qui, moi, en tout cas, celle de mon gros frère aussi, qui adorait, on se battait pour avoir les Achille Talon. Et ce qu'on faisait surtout, qui était terrible, c'est que, vous savez, c'était dans ses meilleurs albums, des histoires en deux planches, et surtout, il ne fallait pas regarder la dernière case, tout explosait sur la dernière case. C'était de dire à l'adversaire, et à la dernière case, il devient tout gros. C'était très drôle, comme le fut Achille Talon, qui a 60 ans. Joyeux anniversaire, monsieur Achille Talon. Pour une fois, je ne parle pas de mort.
Ouais, moi, je me souviens surtout Le Roi des Autres.
Ah oui, mais ça, c'est une histoire longue.
Ouais, j'avais bien aimé ça.
Ouais,
enfin,
ouais.
C'est celle qui m'a marqué.
C'est vrai ?
Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Et c'était aussi. Les bagarres étaient rigolotes dans Achille Talon quand ça se bagarrait, notamment dans des histoires longues, si Le Roi des Autres, c'était vraiment pif, paf, pouf, bam, bam.
Oui, même dans les bastons, dans les histoires en deux planches avec le funeste. Moi, j'ai l'air faible pour le funeste.
Je me demande bien pourquoi. Il y a du freudien.
Ouais, moi j'aimais bien de funeste et j'aimais bien quand Achille Talon prenait. Alors,
moi souvent, j'aimais bien le papa de Talon.
Ouais, j'aimais bien il y avait le papa de Talon. Il y avait Virgule de Guillemets aussi.
Ouais, ouais.
Virgule
ouais,
de Guillemets, l'espèce
c'est un classique.
De comment dirais-je, d'aristocrate dont Achille était.
C'est l'art du Néron, enfin c'est vraiment tout. Il y a un humour, effectivement, il y a du maîtrise du texte avec des beaux phylactères autour.
Ouais, ouais, des longs phylactères, des longs textes. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si Achille Talon peut être une BD qui plaira autant aujourd'hui qu'hier. Je n'en sais rien. En tout cas, je crois que ça s'était poursuivi sans Greg. J'ai pas vérifié à ma grande honte. Mais je ne sais plus.
Je suis plus.
En tout cas, il a 60 ans. Joyeux anniversaire. On s'écoute un petit Dix de la programmation à qui ?
À moi cette fois.
Ok. C'est
votre morceau, c'était Sweet. She's Sweet. Bah, moi aussi, ça va être Sweet. C'est les Pastels. Écoute ça, de la bonne vieille pop.
Thank you.
Pastels, Check My Heart. Si c'est pas Sweet, ça aussi.
Bah ça, mais je connais les Pastels.
Ouais, j'adore.
Vous me fites découvrir les Pastels. Alors, ouais, vous vouliez nous parler du Grand Prix, parce que...
Oui, on
du
était...
Du Grand Prix.
Il se passe quand même plein de trucs en début d'année à chaque fois dans la BD, puisqu'il y a Angoulême, alors avec tout son lot de polémiques, de blabla, de prises de tête, etc., etc.
Pas ça, trop cette année, je trouve.
Un peu. C'est toujours un peu les mêmes trucs, hein, maintenant, les mêmes procès qui reviennent.
Ouais,
tout le monde y met un peu de ça.
Avec Bastien Vivet, ça avait chié des bulles quand même.
Mais je crois qu'il y a une nouvelle plainte contre lui.
Ça fait ressucer.
Ouais.
Pas sûr qu'on puisse le dire à la radio encore.
Bon, ben après il y a des trucs quand même qui sont intéressants, qui surgissent de tout, enfin qui au milieu de tout ça, il y a quand même de la BD, faut pas oublier. C'est Posy Simmons qui a eu le Grand Prix, qui est le prix quand même un peu le plus important de ce festival, qui
en
rendait plusieurs.
Donc en fait,
plusieurs.
C'est pour l'ensemble de son œuvre, ça.
Ouais. Gemma Bovary, Tamari Drou. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des lectures qui sont dans mon champ, dans mon champ personnel.
Non,
je dois avouer que
je
n'ai pas lu. Je connais Tamara Drou via en fait, le cinéma.
Oui, parce
moi,
que
c'est,
alors, c'est quoi, la BD est antérieure au film ou
bah,
c'est
oui,
le contraire
oui. Okay. Ouais. Mais en tout cas, voilà, elle est britannique. C'est du peu que je vois au niveau dessin, c'est un dessin assez élégant, assez raffiné. Tant pis pour Catherine Meurice. Donc encore une fois, elle a pas de bol. Elle, je crois que c'est la cinquième fois où elle est dans, à chaque fois un peu dans
c'est
le.
C'est vrai.
Ouais.
Non,
ça doit énerver.
Ouais, ça doit énerver à force.
Et il y avait Monsieur Cloves en troisième possibilité. Eh ben, c'est la Britannique qui a gagné.
Ah ouais, encore une fois, moi, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'effectivement, on a bon sucer les yeux année après année à lire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ouvrages de bandes dessinées.
Vous ne vous attendiez pas quand même à Vulva dans les
non,
prix.
Vulva Viking, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi
ça,
pas,
c'est
pas,
de l'audace.
Pour l'album, voilà, pour l'album de l'année. Je ne dis pas pour l'ensemble de l'œuvre encore d'Elisabeth Pitch, mais ça viendra. Ouais. J'aurais été ravi, moi, de voir effectivement Elisabeth Pitch remporter le Grand Prix.
Décidément, vous vous intéressez beaucoup à la gente féminine parce que je crois que vous avez Marie Tudor maintenant à nous proposer. Vous m'en parlâtes beaucoup de cet album.
À chaque fois, vous foutez de ma gueule.
Non, mais c'est Marie Tudor, ton moulin, ça me fait rire.
En fait, c'est moi qui me chantais ça pour essayer de me remonter de morale. Vous connaissez cette vieille chanson. Marie Tudor, ton moulin va trop vite. Marie Tudor, ton moulin va trop fort. En fait, comment Marie Tudor fait partie de cette longue série désormais intitulée Les Reines de Sang aux éditions Delcourt.
Ouais.
Et je dois avouer que c'est quand même plus moi qui m'y colle. Je vous ai déjà fait Boudica.
Vous êtes un
excellent. Ouais. J'aime bien, j'ai bien aimé aussi Constance d'Antioche. Alors, un truc. Jamais entendu parler, Constance d'Antioche, la mère Roxalane aussi, bien. Et là, c'est Marie Tudor. Alors, Marie Tudor, ton moulin va-t-il trop vite ? Excusez-moi, on va dire que c'est...
C'est une Britannique, dans mon souvenir.
C'est la première femme qui va être considérée comme reine régnante, parce qu'on peut être reine consort, vous voyez le genre, Marie ouais. du Roi, on est reine, mais on n'est pas régnante. Elle va devenir régnante après avoir battu sa concurrente et d'avoir fait décapiter, genre.
Bah à l'époque, vaut mieux pas laisser les rancunes s'enflammer.
Ouais, alors la pauvre chérie Marie, il faut dire que comment elle a une famille, c'est il y a la série Crown que ma chérie regarde en ce moment. Il paraît que c'est bien, mais c'est rien comparé à la série Henri VIII, ses femmes et toutes les conséquences.
Ouais.
Parce que Marie Ière, elle est également connue sous le nom de Marie Tudor. Elle est née le 18 février 1516 et elle est morte en 1558. En fait, elle est la fille de... Elle est issue du mariage malheureux du roi Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Elle va être écartée du pouvoir puisque c'est une fille. Et notamment, en plus de ça, son père va se remarier avec Anne Boleyn. Vous voyez, Henri VIII, c'est quand même lui qui a donné naissance au mythe de Barbe Bleue, quand même. Donc... Et pour compliquer les choses,
cuit ton caricature.
Comme vous savez, son père avait créé sa propre église protestante parce que l'église lui avait refusé de se remarier. Donc il avait créé son église réformée, mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui, notamment sa fille. Donc sa fille était catholique et ça ne va pas vraiment bien passer entre elle et lui, mais elle va finir après la mort de son père et la mort de son frère aîné, issu d'un autre lit, Marie va rassembler une armée, comme je vous dis, elle va déposer Jeanne, la concurrente, qui va la décapiter, et elle va en plus épouser Philippe II d'Espagne, et ainsi devenir reine consort d'Espagne. C'est-à-dire qu'elle va devenir non seulement la première femme appelée à régner...
Spider-Man
Mais elle sera... avec son mariage par le roi d'Espagne, elle sera donc reine d'Espagne, de Sicile, de Naples, duchesse de Bourgogne, de Milan, de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg, comtesse de Flandre, de Hainaut et comtesse palatine de Bourgogne, n'en jetez plus.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Sauf que, effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, je dirais, et on ne devient pas femme appelée à régner, régnante.
Ça
même.
Va le finir pour elle, je crois, non ?
Non, ça ira. Elle va quand même, lors de son règne, imposer une répression vis-à-vis des réformés, et on parle de quand même plusieurs milliers de morts. Elle va brûler vif 280 réformateurs en place publique. Et c'est un surnom qui lui donnera le peuple anglais, garde en mémoire son surnom, à votre avis, vous qui êtes...
Marie Tudor, elle a un surnom, ah non, je ne vois pas.
Putain, mais vous êtes anglophone.
La Vierge de Fer.
Mais non, Vierge de Fer, on aurait dit Iron Virgin, non.
Je sais pas, moi.
Bloody Mary.
Ah, Bloody Mary, c'est un cocktail.
Non. C'est surtout.
Si, c'est un cocktail.
Ouais, c'est un cocktail, mais c'est surtout. Et pourquoi il est rouge, le Bloody Mary?
Avec la tomate, ouais.
Ouais, mais c'est aussi parce que ça rappelle le règne de Marie Tudor.
C'est QFD.
Comme quoi, avec plume et pinceau, on en prend plein de trucs.
Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça vaut?
Classique. Hein, on est dans la BD que moi j'aimais bien dans le temps. Vous savez, avec l'histoire de France en bande dessinée. On est là-dedans.
Ah, l'histoire de France en bande dessinée, il y a des très bons auteurs italiens dedans.
Ouais.
Faut pas déconner.
Moi, ce que je reproche un petit peu toujours, c'est une espèce de mise en couleur qui, je dirais, on va pas se mentir, pour moi, n'est pas convaincante. Parce que regardez, Marie Tudor, elle est plus bronzée que moi quand je reviens de Kabylie, tu vois. Et là, mon frère, je doute que Marie Tudor soit aussi bronzée que moi, vu son hérédité. Voilà, c'est pas pour dire du mal de Marie Tudor, parce que...
Il y a trop d'ocre.
Hein ? Il y a trop d'ocre. Alors, regardez, c'est pareil, elle baigne dans l'ocre. Tout le monde est dans l'ocre. Et c'est un peu dommage. Et moi, je dis pour cette série-là, pour certains ouvrages, et encore une fois, je vous le dis, le noir et blanc, pourquoi pas directement pas le noir et blanc. Voilà. Mais si vous aimez le sang, si vous aimez les femmes de caractère, les femmes de pouvoir, comme moi, d'ailleurs, la preuve, en tout cas, on est un peu tranquille, les gars.
Juge pas.
Elles sont toutes mortes, hein, celles-là. Ça va, elles vont pas revenir. À moins qu'elles reviennent vous voir, si elles ont acquis avant de mourir des pouvoirs supranormaux, mais j'en doute. Une belle brochette. Mais il faut dire aussi que, à leur décharge, être une femme, c'était déjà pas un cadeau. En plus, on enfantait, comme le voulait la Bible, dans la douleur. Et ça, on en savait quelque chose, puisque qu'on soit reine ou pas, on était aussi surtout des super reproductrices. Ça ferait sûrement plaisir à notre actuel président, hein, qui confond ses électrices avec des reproductrices. Eh bien, Marie Tudor, elle a dû s'imposer. Et en fait, c'est la constante qu'on trouve dans toutes ces séries-là. C'est un peu, certes, elles ne vont pas rigoler. Une fois qu'elles seront du côté du manche. Mais quand elles n'étaient pas du côté du manche, elles étaient bien souvent du côté de la sortie. Et genre, de toute façon, c'est kill or kill me, genre.
Je vois.
En fait, elles sont pas devenues comme ça par hasard.
C'est ce que c'est Delcourt, je parie, parce que effectivement, Delcourt capitalise beaucoup sur ce genre de série.
Alors on retrouve naturellement, excusez-moi, avec Corbeyran au scénario, parce que c'est un peu maître d'œuvre de cette série.
Voilà, parce qu'ils ont effectivement un pool très fidèle, le roux au dessin, etc., qui suivent, qui leur permettent de porter tout ça.
Voilà. Et on a donc
Reine de sang.
Cette fois-ci, au scénario, on a M. Corbeyran et M. Claudio Montalbano. Je vous dis, mais j'aime bien. Alors, c'est l'avant-dernier album. Là, elle vient d'arriver à Londres. Comment
Il est reparti.
Non, mais je vous dis, ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas. Tu rentres chez l'autre, tu butes tout le monde, quoi.
Moi aussi, j'ai un truc qui rigole pas. Mais alors, plus classique, plus littéraire. Moi, c'est pas l'histoire, c'est donc la littérature à laquelle sur laquelle je vais m'appuyer. On va s'intéresser à un personnage qui s'appelle Damon Price. Damon Price, il vit au 19e, aux États-Unis, et il a des problèmes d'argent, il est pourchassé par des truands, il a des dettes de jeu. Et il va aller essayer de trouver des thunes en allant voir et ben finalement de la famille. Hein. Il est le cousin d'une certaine Madeline qui a disparu, mais elle a un frère et il va aller essayer de taper un peu des sous au frère. Le frère s'appelle Roderick Usher et la cousine s'appelle Madeline Usher. En fait, c'est la maison Usher que nous propose Jean Dufaux et Jaime Calderon.
Vous l'avez avec vous ?
Ouais.
Semble l'avoir feuilleté. Vous me l'aviez montré.
Oui, je crois. C'est pas une adaptation, mais c'est fortement inspiré de la chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. C'est donc vraiment, on va plonger dans le gothique, la nouvelle gothique américaine. Alan Garpo est connu quand même pour ça. Il a été introduit en France grâce à Baudelaire, rappelons-le. Et une de ses histoires les plus connues, c'est la chute de la maison Usher. Et là, elle inspire Jean Dufaux et Jaime Calderon parce qu'ils ne vont pas faire une adaptation littérale comme a fait Baize, par exemple, avec Notre-Dame de Paris. Non, non, là, il puise les faits, cette famille Usher, et ils en proposent leur version. Par exemple...
Quel titre ils ont donné du coup à ce...
Du coup, ils ont appelé ça la maison Usher.
Okay.
Par exemple, il y a une double narration. En fait, il y a donc le personnage principal, la Price, qui nous raconte toute cette histoire. Et puis, régulièrement, tu vas voir Poe lui-même, qui est comme une espèce de devin, enfin, qui semble avoir des visions des faits, qui la commente lui aussi. L'auteur a été inclus dans les personnages, tu vois, par notre duo français. Enfin, belgeo-espagnol. Et du coup, on est vraiment dans ce qui fait le Alan Garpo quand même, il faut le reconnaître, c'est ce gothique américain. Je trouve que tout est dit dans la couverture. En fait, je trouve que la couverture est très réussie parce que tu vois que
belle.
Ça fait vraiment.
Elle est belle.
On est très respectueux, il faut le reconnaître, d'un genre. Mais Dufaux, c'est un beau dessin qui s'y colle bien pour effectivement ces ambiances comme ça de gothique, de chat noir, etc. Puisque vraiment la couverture est très réussie. Je trouve que le personnage féminin, il est à la fois ce côté presque sensuel et en même temps fantomatique, quoi, par exemple.
Alors,
et puis. T'as tout,
en couleur, noir et blanc.
Ah bah Dufaux a tout géré. Et c'est pas non plus un amateur en dessin, quoi. Il a ce dessin réaliste. Moi, les couleurs, forcément, tu vas trouver ça un peu sombre, mais il y a beaucoup de scènes de nuit, etc. On est quand même ambiance cimetière.
Quand le dessinateur ou la dessinatrice peut contrôler les couleurs, je trouve que le résultat est toujours bien meilleur.
Ouais, en plus, ils ont fait Delcourt a soigné vachement bien l'objet, tu vois, dos toilé, violet, comme ça, un format très très grand. Le dessin peut se déployer, et puis il y a même à la fin, ce qui est intéressant, c'est que tu as la nouvelle originelle et tu peux comparer finalement.
Ah, c'est bien. Donc, la chute de la maison Usher, cette nouvelle-là est in extenso, comment dirais-je, dans le bouquin.
Exactement.
À la fin de la BD.
Tu peux voir l'original et la réécriture parce que c'est vraiment une réécriture. J'insiste vraiment sur ce fait. Après, on est dans des histoires de familles maudites, de chats noirs, de châteaux, etc., de la brume.
Je vous trouve bien vague dans l'histoire. Est-ce que vous affichez les
points ? Mais oui, c'est ce que je te dis. En fait, c'est Damon Price qui va voir son cousin Roderick Usher parce qu'il a besoin de thunes. Il est poursuivi par des blacks avec des couteaux là, parce qu'il a des dettes de jeu. Si, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. J'ai pas juste consulté la fiche Wikipédia de Marie Tudor.
Ton boulot va trop vite. Rigoler, j'ai tout lu.
De quelle couleur sont ses yeux ?
Eh ben, noir.
Interlude musicale.
Yes.
Programmation à Roger, ça me surprend. Goat Girl Country Slays, c'est vachement bien ça.
Oui, c'est bien ça.
Go Ahead Girl, ouais, c'est vachement bien ça. Surtout ce morceau. L'album était mi-figue, mi-raisin à l'écoute, mais il y avait quelques très bons titres, dont celui-là.
Ouais, yes.
Bravo, Roger.
Et je vais vous parler de L'Espion d'Orion.
Alors, oh oui, ça, oh oui, oh oui.
Ça, c'est bien. C'est chez Delcourt Mirage, avec Daniel Mas et Alexis Vitrebert. Je voudrais pas massacrer.
Tu es sûr?
Oui, c'est parce que c'est pas écrit très gros, alors c'est pour ça. Écoutez, c'est génial. Au début du 19e siècle, l'Orient mystérieux, et puis encore plus les provinces du Sahara, au sud du Sahara, sont totalement inconnues. Il faut savoir qu'à l'époque, nul occidental ne peut se vanter d'avoir vu Tombouctou. Il faut le savoir. Et il faudra qu'on ait.
Une BD sur le premier
Orient. Ouais, il faudra que nous devons un talent de M. Pandanx et Dabitch. On les a rencontrés, en tout cas le dessinateur, on l'avait rencontré.
Exact.
Et là, c'est on est au 19e siècle, début du 19e siècle. C'est un Suisse, en fait. C'est un Suisse, il s'appelle Johann Ludwig Burckhardt.
C'est un nom de Suisse, ça.
C'est un Suisse. C'est il un doit Suisse. Être issu d'une riche famille baloise.
Oh, bah tiens.
Ouais. Et en fait, il va partir à Londres parce qu'il veut partir en Angleterre, travailler. Il a envie de quitter ses cantons, etc. Il a envie de faire fortune en Angleterre. Il n'y parvient pas, mais c'est un homme qui est passionné de voyage, etc. Et il parvient à convaincre l'Association africaine en 1809 de l'embauche pour mener des actions de repérage géographique, mais aussi diplomatique et d'espionnage dans cet Orient mystérieux en pleine période des conquêtes napoléoniennes. Et tout ça est vrai, mon bon Erwan. Et on découvre un personnage littéralement hors du commun. Ce mec-là va être formé par les Anglais à l'anglaise. C'est-à-dire que déjà, lui, c'est pas un crétin, il sait lire, il sait écrire. Et les Anglais, donc il parle allemand, il a appris l'anglais, et cette espèce de comité géographique, espèce d'association bizarre, c'est, vous savez, c'est un petit côté, ça fait presque penser un peu à Sherlock Holmes, cette période-là, où il y a des clubs bizarres.
Ouais.
Officiellement, ça appartient pas à l'État, mais bon. Quand même.
Secte maçonnico étatique,
quoi. Genre, ouais, ce sont des agences.
Deep State,
en fait.
Quoi.
Ouais, un peu des agences. Et il est embauché par cette agence-là. Je dis ça parce qu'ils vont véritablement le former. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'envoyer comme ça, pouf.
Ça, c'est vraiment l'Angleterre, effectivement. Il y a même des entreprises. Comment s'appelait l'entreprise, tu sais, qui a quasiment imposé la conquête de l'Afrique du Sud.
L'Institut de géographie, de comment...
Non, mais il y a même des entreprises, je te dis. Il y en a une, je ne sais plus là, comment elle s'appelle, mais qui était dans le diamant, qui a quasiment imposé une intervention britannique pour mettre la main là-dessus.
Afrique du Sud, mettre la main sur le diamant d'Afrique du Sud.
Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette entreprise. Mais c'est vrai qu'il y avait des lobbies.
Ouais, et il va être formé, ce monsieur-là, il va être formé, et il va apprendre l'arabe, etc., on va lui donner un pécule, et il va partir, comme ça, il va partir en Orient, il ne reviendra jamais.
Mais il va partir où exactement ?
Alors, c'est là où ça devient dingo, c'est que ce monsieur-là va partir partout. Il va d'abord débarquer, après son séjour pénible en Angleterre, il va d'abord débarquer à Malte. Malte, ça me rappelle quelque chose, puisque ma fille vit en ce moment. Elle aussi est arrivée à Malte. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait au Malte que j'ai vu au mois de novembre, mais Malte, c'était la porte d'entrée vers l'Orient. Parce que Malte, c'est à deux pas de la Tunisie. Et c'est là que, en plus de ça, à Malte, on parle arabe aussi. Il y a encore des gens qui parlent arabe à cette époque-là à Malte. Et c'est là qu'il fait ses premiers pas pour commencer à apprendre à se débrouiller tout seul. Et puis après, il va partir en Orient. Il va partir en Tunisie. Et puis après, il va commencer à rodé à droite à gauche, il va aller au Liban. Il y a des scènes somptueuses, je vous parlerai du dessin après, sur les montagnes druzes recouvertes par la neige, un truc incroyable, c'est magnifique. Et il va aller en Égypte, il va aller en Syrie. En Syrie, il va. Et ce qu'il y a de fabuleux, parce que j'adore ce plan effectivement archéologue. Là, on est aussi. Il y a tout à côté Indiana Jones, sans le côté pillard. Il revient pas avec quoique. On en reparlera. Mais en fait, il dit là où il y a les pièces, où on peut les prendre. Hein, c'est ainsi que, comme ça, à Louxor, il va remonter jusqu'à Louxor et il va faciliter le travail des agents anglais pour que les agents anglais découpent les têtes, découpent les frises et envoient ça au British Museum. Genre, c'est un peu son boulot. Son boulot, c'est aussi de préciser à l'Angleterre si est-ce que oui ou non il y a l'armée turque est par là, parce que c'est des possessions turques, etc. Il va rencontrer des espions français. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont des sales têtes. Les espions français, ils sont toujours représentés un peu vicelards. Et par contre, il va être le premier Européen à découvrir des lieux mythiques, Petra, en Jordanie, le temple d'Abou Simbel, à l'époque encore non déplacé, parce qu'à cause du barrage d'Assouan, il va être totalement déplacé et remonté plus à l'abri par la France. Eh bien, là, lui, quand il l'a découvert, le temple d'origine, il est encore en partie recouvert par le sable. Mmh. Et il va faire des découvertes. Enfin, c'est assez curieux parce qu'on savait qu'il y avait ces trucs-là. Mmh. Mais nul occidental, en tout cas, nul n'y était parvenu. Ce qu'il y a de complètement dingue, c'est ce monsieur-là qui va faire, en fait, toute cette odyssée-là. Il va la faire à pied ou à dos de chameau. En vivant comme les gens du coin. À un moment donné, on le voit même, il suit une caravane, et dans la caravane, les autres de la caravane se foutent de sa gueule parce qu'il n'a pas d'esclaves pour se faire à manger. Mmh. Parce que l'esclavage est denrée commune. Et à un moment donné, il est forcé d'accepter qu'on lui donne un petit boy. Bah, t'es obligé, parce que si tu veux passer par... Sinon, là, on va pas te prendre pour un homme, genre, vous voyez. C'est assez fantastique. Il finira sa vie par rencontrer un dingo, un Écossais, tout roux. Un Écossais tout roux qui, lui, ne bosse pas pour l'Angleterre, mais a décidé de rester là. Il a déserté l'armée anglaise des Indes et il s'est fait musulman. Et puis il vit comme ça. Et il va devenir le compagnon de route de cet espion d'Orient, Johann Ludwig Burckhardt, et l'accompagnera jusqu'à sa mort très précoce, hein, parce qu'il va mourir au Caire, très très jeune, victime de l'épuisement. C'est un bonhomme qui va littéralement mourir d'épuisement. Au niveau du dessin, on n'est pas dans un trait purement réaliste. On est dans le réalisme, certes, les gens n'ont pas de gros nez, mais Alexis Vitrebert a fait le choix d'un dessin un peu stylisé, avec des couleurs très pastelles, voyez, ce qui rend adouci un peu cette lumière du désert et lui permet de créer des espèces d'ambiances. Là, on a des horizons, on voit bien le... Que tout ça en énormément de couleurs chaudes, hein, il a dû user beaucoup d'encre et ouais, il s'est débrouillé pour que le rendu du sable soit parfait. Pas évident de dessiner du sable à l'aquarelle, je peux vous le dire. le dessinateur y arrive parfaitement. Il va même aller à la Mecque, ce monsieur-là. Il va être le premier Européen avec son pote écossais, les premiers à faire le pèlerinage à la Mecque, à tourner autour de la Kaaba et à monter sur la petite montagne au-dessus. C'est absolument génial. L'espion d'Orient de Daniel Mas et Alexis Vitrebert dans la collection Delcourt Mirage aux éditions Delcourt. Alors là, ça a été vraiment ma surprise du jour.
Comme beaucoup de Français, je crois, finalement, j'ai lu L'Iris Blanc. Monsieur Fab Caro a remplacé Monsieur
Gossinet.
Là, vous
n'emmerdez plus. Là, vous faites comment ? La semaine dernière, vous aviez fait Gaston.
Ouais.
Et cette fois-ci, Alexis. Alexis.
Oh. Ah là là, shame, shame.
Parce que je suis en train d'écrire Alexis
Vitrebert
dans le grand livre.
Astérix, ouais. Avec Didier Conrad, donc qui remplace Uderzo. Mais oui, mais j'ai eu l'occasion de... Des gens me les ont prêtés. Okay. Donc j'ai eu l'occasion, je me suis dit que ça valait le coup quand même de s'intéresser à ces... Bah, parce que c'est deux albums qui ont aussi tiré le monde de la BD cette année, hein. Je suis désolé, mais le Gaston et l'Iris Blanc, la nouvelle épisode de Astérix, donc... C'est des locomotives dans le monde de l'édition de bande dessinée.
Alors,
le duo Conrad et Fab Caro s'en tirent plutôt pas mal, j'ai reconnu. Il y a même des fois où j'ai vraiment rigolé. Alors c'est très... Bon, voilà, l'idée c'est quoi ? L'Iris Blanc, en fait, c'est une espèce de méthode qu'a mis au point un Romain. Évidemment, il y a toujours un Romain qui va s'en prendre à nos héros de bien de chez nous. Celui-là, il s'appelle Vice et Vertu. Et c'est une espèce de gourou, de bien... Enfin, de il professe une espèce de positivité, de méthode de positivité. C'est pas sans évoquer, tu sais, tous ces mecs qui font dans le développement personnel, en fait, des temps de maintenant. Une méthode qu'il a appelée l'iris blanc, qui est vaguement inspirée d'un philosophe grec, etc. C'est-à-dire qu'il complimente beaucoup, il fait des jolies phrases, très fleuries, avec plein de métaphores, tu comprends ce que tu veux, dans l'idée de te rebooster en te remontant ton ego quelque part, en te
coach,
disant
quoi.
Que ouais, c'est un coach, voilà, un coach. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que César s'aperçoit que ses légions, elles ont plus la niaque, quoi. Elles manquent d'entrain, pas seulement du côté de notre petit village gaulois, mais de manière globale, quoi. Donc, il est très emmerdé, il réunit son conseil de guerre et ce personnage, Lavice Vertus, il est le médecin général de l'armée et donc il propose de tenter justement donc d'appliquer sa méthode de l'iris blanc aux troupes de César pour leur redonner de l'ego et une confiance en eux, quoi,
okay.
En les encourageant. Alors, César n'est pas top convaincu, mais il veut bien faire un test et il choisit la garnison de Babaorum. Donc, notre professeur Iris Blanc, notre vice Vertus, il va se retrouver à Babaorum. Et puis, il est aussi dans manger sain, tu sais, des graines, du poisson, les viandes, tout ça, faut arrêter, c'est très mauvais pour ton corps, respecte-toi, etc., etc. Donc, il va faire ses courses au village. Parce qu'il pense y trouver les produits typiques. Puis en même temps, il sait très bien que ce village, comment me dirais-je, César, s'il pouvait le faire tomber, ça lui plairait, quoi. Il est ambitieux quand même. Il est un peu arriviste sur les bords. Et donc, il va utiliser sa méthode non seulement pour rebooster les légionnaires, mais aussi, il va introduire la zizanie, j'ai envie de te dire, en arrivant dans le village de nos Gaulois et en appliquant sa méthode sur les grandes figures de celui-ci, le poissonnier, etc. Par exemple, notre ami, tiens, devinette, comment s'appelle le poissonnier ?
Ordre alphabétique.
Bravo. Eh bien, ordre alphabétique, tu vois, au lieu de faire venir son poisson de lutèce, il va directement aller le pêcher.
Oh !
Tu vois, sur les conseils de vice et versa.
Ça, c'est révolutionnaire, je suis d'accord.
Ben oui, parce qu'à un moment, tu vas le voir tout désimpointé parce qu'il n'y a plus de mouches. Il n'y a plus de mouches autour de son étal et il demande du coup si son poisson est vraiment vendable, est-ce qu'il est vraiment comestible, quoi, parce que le fait qu'il n'y ait pas de mouches, c'est luxe. Et donc, ça te. En fait, ça reprend des ficelles quand même, tu vois, ça évoque le devin et tout ça, c'est-à-dire le type qui arrive dans le village et qui essaye de mettre le boxon, quoi. Mais là où ça devient, enfin, donc ça reprend c'est vraiment respectueux du classique. Conrad, dans son dessin, franchement, il reprend du Uderzo, enfin, il est très traditionnel. Puis tu retrouves les pirates, tu retrouves les légionnaires, Babaorum, tu retrouves vraiment les sangliers, tu retrouves tous les ingrédients, tu vois. Mais ils ont réussi quand même à faire une histoire rigolote. Et donc, ils remplissent le contrat. Au début, j'étais un peu dubitatif, je t'avoue, parce que dès le début, tu retrouves la patrouille qui tombe sur Astérix. Enfin, tu vois, tout de suite, tu as l'impression de « Ah, j'ai déjà vu ça quelque part ». Mais ce qui est intéressant, et j'ai découvert ça m'a permis de découvrir vraiment le pouvoir comique de deux personnages, à savoir Abra Raccourcix et en fait Obélix. C'est vraiment eux les rigolos dans cette histoire, parce que notre Iris Blanc, il va réussir à embobiner Bonne Mine, tu sais, la femme du chef, Abra Raccourcix, et il va l'emmener à Lutèce. En fait, il a tout un plan machiavélique, pourquoi à Lutèce, etc. Il profite, tu sais, elle a un frère à Lutèce, enfin, il va jouer vraiment, il la charme par ses belles paroles, et puis ils deviennent très copains, très proches. Elle commence à avoir des questions sur son couple, qui l'obsède et tout. Et en fait, c'est très rigolo. Les moments où Bonne Mine sort de son rôle de femme au foyer et tu vois commence à se poser des questions sur son couple et du coup les pauvres efforts pathétiques d'Abra Raccourcix pour essayer de rattraper les choses et quand elle part Abra Raccourcix il est dans la déprime tu sais parce que c'est la rupture quoi. Et donc, ils vont partir, bien sûr, à Astérix, Obélix, Abra Raccourcix, ils vont partir à la recherche de Bonne Mine, direction Lutèce, quoi. Mais lui, il fait la gueule, quoi. Il fait la gueule et le jeu qui s'instaure avec Obélix est vraiment très, très drôle. Et vraiment très, très drôle. Et après, tu retrouves tout, tu sais, les objets modernes qui sont réutilisés. Par exemple, tu as le TGV, mais là, c'est vraiment tout un attelage de plein de chevaux. Et puis, ils te disent, en raison d'un sabot perdu, d'un fer perdu sur un sabot, nous aurons 2 heures de retard. Tu vois, y a ça, tu retrouves ça, tu retrouves les trottinettes, tu as le monde moderne. En fait, tu vois, ils ont vraiment repris les recettes, mais c'est un bon album. Sincèrement, c'est un bon album parce qu'ils ont réussi cette histoire de... finalement de Abracoxix dont le couple est menacé, c'est vachement frais quoi. Et ça donne vraiment plein d'occasions de vraiment rigoler. Il y a plein de situations hyper burlesques. Donc vraiment belle réussite, vraiment, de l'Iris Blanc, de Fab Caro et de Didier Conrad. Ça paraît bien évidemment chez
Albert René.
Bah oui. Interlude musicale.
Yes.
Ernie Bell, elle porte bien son nom.
Stay golden, remember me, unspoken, love between us, hearts open.
Ernie Bell, c'est une des découvertes de du moment pour moi, et j'adore ce Stay Golden, ce morceau, et je vous conseille d'aller sur le blog de Pulle et Pinceau, parce que comme ça vous pourrez trouver le clip de ce morceau, et vous verrez, c'est charmant. Ouais, j'assume.
Bien, vous avez raison d'assumer. Comme autre chose qu'il faut assumer lorsqu'on en porte, c'est les tatouages. Parce que les faire enlever, c'est pire que tout. Et vous avez le droit à une affreuse cicatrice, et en plus, ça fait mal. Aussi, Fluide Glacial a décidé de sortir un hors-série. D'habitude, je ne vous parle pas des hors-séries fluides, parce que tout le monde connaît, etc. Sauf que là, il vient de paraître en dur, ce Fluide Glacial hors série. Moi, je l'ai en soupe étant abonné, mais il est sorti en dur avec en plus une planche d'autocollant à l'intérieur. Alors, faut se méfier. Hein. Suivant les boutiques, parfois le petit supplément.
Faut le demander.
Faut le demander, quoi.
Mais vous êtes sûr que c'est...
Il y avait un petit supplément, genre. Mais bon, bref, si vous achetez le spécial tatou Fuglacial hors série, eh bien, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas que vous ne pouvez pas vous tromper, vous devez exiger la planche d'autocollant collector. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est avec illustré par un magnifique dessin de bouc avec une idée de monsieur Emmanuel Rezé, qui est décidément partout.
Ça m'évoque Little Kevin, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, parce qu'il dessine des bikers, et puis Book, peut-être qu'il avait envie de rendre un hommage à Coyote. Mmh. Hommage qui, naturellement, Monsieur Coyote, un hommage qui lui est rendu, comment dirais-je, on dirait Riff Reb, celui-ci.
Je ne sais pas si... Heureusement qu'il ne voit pas l'image.
Je le montrerai. Un hommage à Coyote, c'est normal. On a donc... on retrouve Little Kevin avec une histoire, le Seigneur des Anneaux. Mmh. Il y a Bouzard qui fait sa petite sortie.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvel album de Bouzard.
Ouais, je sais pas.
Il n'a pas fait un truc avec Fab Caro, Fabrice R et tout ça là.
Si, mais c'était une planche, j'en ai parlé. Mais il y avait quoi?
Je crois qu'il y a un album.
C'était c'est un album dans une planche, un album collectif. C'était sur Mes Jeunes Années, j'ai chroniqué ça.
Non, ils ont fait un album ensemble.
C'est vrai, c'est possible.
Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Oh, vous avez perdu du flair quand même.
Donc là, on dirait effectivement un portrait de Monsieur Riff Reb, je ne sais pas s'il est tatoué comme ça. On retrouve naturellement l'excellent Monsieur Besseron, cette fois-ci en compagnie de Monsieur Gervier.
Ouais, en fait, il y a tous vos crados.
Ouais, et Monsieur Pixel Vengeur, Monsieur Margerin.
Bah voilà.
Voilà, j'ai l'impression d'être au bistrot avec des amis.
Il y a l'indingre.
Il n'y a pas l'indingre, mais il y a quand même comment une ressucée d'un vieux cosmique Roger qui est dans le ton. Du bouc, naturellement, du Gers, qu'on a rencontré à Quédébule. Non, puis Monsieur Bouc, naturellement. Bref, que du beau linge, que de l'excellent, Monsieur Jurg aussi, qui officiait beaucoup dans le psychopathe avant qu'il ne disparaisse dans les limbres, ce qui est bien dommage. Et en tout cas, pour tous ceux qui aiment, qui aiment les tatouages, mais surtout qui aiment un peu rire en ces temps de réformes, de lois sur l'immigration, de guerre un peu partout.
De réforme du lycée professionnel.
Ouais, voilà. Eh bien, un spécial tatou qui vaut le coup. Voilà.
Oh hein. Ah, il est fort.
Et si vous l'achetez en dur dans une librairie, exigez. Je dis bien exigez. D'ailleurs, demandez le blister.
Vous ne nous aurez pas. Nous sommes au courant. On a droit à un ch'truc.
et qu'est-ce qu'on est con. Spécial tatou flux glacial. Que du rire, du bonheur en ces temps troublés. C'est toujours un plaisir. Voilà.
Eh ben, merci Roger. On va se retrouver la semaine prochaine. J'aurai encore du romain, tiens moi, pour vous. Vous aurez peut-être une nouvelle reine à nous proposer, je ne sais pas.
Ah, je ne sais pas. Vous savez, il y a des reines de sang, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait plus dans le temps où les temps étaient effectivement plus rudes. Donc, quand elles prenaient le pouvoir comme les bonhommes, elles se comportaient comme les bonhommes, c'est-à-dire barbecue avec les opposants.
comme il nous reste 2 minutes, j'en profite quand même pour dire, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos chroniques. Vous pouvez pour cela utiliser un lien, une adresse que vous pouvez retrouver sur notre blog. Et merci au Grignou de nous servir de boîte aux lettres. Bon, il y a des explications, les gens ont compris qu'il y a des accointances intellectuelles entre ces deux émissions. Canal B est une grande famille.
Tout à fait.
Exactement. C'était donc la 470e émission de Brume et Pain Solo, l'émission de bande dessinée de Canal B. À la semaine prochaine.
Tant qu'on a le droit.
Bonne lecture, tant qu'on a le droit. Voilà, c'est le temps.